Novembre 2037.
Je sors du cabinet de dentiste. Arrivé dans le hall d'entrée, tout est en marbre rose. Les boîtes aux lettres ont des petites étiquettes dorées. Je m'assois sur une marche, la tête entre les mains. Je viens de lâcher 30 balles pour une consultation de 10 minutes où j'ai appris que j'avais besoin d'un dentier, que je ne pourrais jamais me payer. Un dentier à mon âge, les boules. Avec mon assurance maladie, j'ai le droit de me faire arracher les dents. Ça, c'est remboursé. Les réparations, elles ne sont jamais remboursées. Et le dentier, encore moins. Mon boulot minable, des ménages en intérim, me permet à peine de me loger. Si je veux un dentier, il faut que j'arrête de me chauffer ou que j'arrête de manger, mais dans ce cas-là, j'en ai rien à foutre d'avoir un dentier.
Depuis un mois que je casse des petits bouts d'antidouleur que je fourre dans le trou de ma dent pour la soulager. Et ça fait 5 ans que j'ai pas croqué une pomme ou une carotte. Je prédécoupe tout, une sorte de prémâchage qui donne un goût un peu amer à tout ce que j'aurais croqué à pleines dents. Je ne croquerai plus la vie. Voilà une belle métaphore à ma situation. J'en ai ras-le-bol, comme beaucoup de gens. Mais c'est ainsi. Il ne faut pas se poser trop de questions et profiter de ce qui est profitable.
Alors je me relève et je déplie mon parapluie multicolore pour sortir sous la pluie froide du mois de novembre. L'arrêt de transport urbain est plein de monde et le panneau publicitaire d'information clignote.
En raison d'un mouvement de protestation illégale, les réseaux TCPU seront perturbés le 10 novembre à partir de 14h30. La situation sera bientôt sous contrôle.
Un mouvement de protestation illégale. Jolie manière de parler de manifestation. J'ai vu des affiches en ville qui disent que les lycées sont bloqués. Mais dans les médias, on entend surtout parler du retour au calme et de la lutte contre les pilleurs. Je décide de marcher jusqu'à une ligne de bus périphérique.
4 camionnettes des forces de la paix urbaine me doublent. Je viens de perdre 4 points d'audition au moins avec leurs sirènes de merde. Elles tournent vers la place Blanche. Je continue par les petites rues. Je n'aime pas cette ambiance, quand la ville se referme sur moi. Je suis bien contente d'habiter loin, même si je fais parfois 1h30 de transport pour aller bosser. Même si j'ai l'impression parfois de me momifier dans cet appartement standard, avec Ray qui déprime à moitié. Ce mec me rassure, comme une routine inlassable, et des fois il me fatigue, parce qu'il croit que tout lui est dû.
Avance la vieille, tu vois pas que tu gênes !
La vieille ? Mais je ne suis pas vieille. Pourquoi on me met dans cette case ? C'est quoi cette journée de merde ? D'abord le dentier, et puis je suis vieille. Je suis vieille, ça y est, j'ai passé cette limite invisible qui me classe dans une petite boîte de « inutile ». J'ai que 57 ans, je suis pas à 12 ans de la retraite. Pardon, je suis à 12 ans de la retraite.
Je suis contre le mur et je vois défiler devant moi un tas de gens qui marchent à toute vitesse, tous cagoulés, tout en noir. Merde, me v'la prise dans un groupe de vandales. Comment je me sors de ce pétrin ?
Hé madame, vous êtes qui madame ? Qu'est-ce que vous faites là à pas bouger madame ?
Je suis une madame qui fait la madame, ça vous dérange ?
Mais faut pas rester là, parce que derrière il y a plein de flics là, et ils ramassent tout le monde. Ils font pas la différence entre les madames de la manif et les madames qui font les madames.
Plein de flics ? Mais oui, c'est ça, les flics. C'est le mot. C'est pas force pour la paix urbaine. Ce mot résonne comme un bon souvenir des années 2010. Flic, flic, flic. Et voilà que cette encapuchonnée me saisit le bras et m'emporte avec elle.
Je me laisse emporter, décalée dans la foule noire avec mon parapluie multicolore. Peut-être que c'est ça, être vieille. Avoir un parapluie multicolore plutôt qu'une capuche noire. Je vais avancer un peu avec eux, plutôt que de me retrouver nez à nez avec les autres, les flics. Et puis ça fait du bien de retrouver cette agitation, les slogans criés avec entrain et parfois de longs hurlements, des sortes de plaintes où on sent toute la désespérance de ce monde. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont des bombes de peinture pour mettre des slogans partout. Les murs sont tellement recouverts que certains escaladent à moitié pour atteindre les écrans publicitaires. Il y a des gens avec des cabas remplis de matériel de peinture, seaux, rouleaux, aérosols. Et voilà que certains se servent pour repeindre la façade des impôts. Ça, ça fait bien plaisir.
Vous êtes là par hasard ?
Non, je sors juste de chez le dentiste. C'était prévu que je sois là. J'avais rendez-vous, moi.
Mais vous saviez qu'il y avait une manif ?
Peut-être. Il y en a eu plusieurs, des manifs.
Mais vous en avez jamais fait ?
Mais bien sûr que si, ma petite. J'en ai fait plein des manifs. Qu'est-ce que tu crois ?
Et voilà, je dis ma petite. Voilà. Voilà, c'est donc vrai, je suis vieille, je lui ai dit ma petite. Et là, je vais lui rabâcher le grand temps des manifs de docker, les rafles de flics, la perquisition chez mon oncle, je suis minable.
Mais en fait, de celle de maintenant, c'est la première que je fais.
Eh ben ça...
On n'entend pas la fin de sa phrase, parce qu'au milieu des cris, il y a une vitrine qui vient de casser. Il s'ensuit une sorte d'agitation silencieuse et perplexe. Le bruit résonne dans ma tête. J'ai comme l'envie de fuir, par peur d'une répression qui s'abattrait sur nous, comme un filet jeté du ciel. Mais en fait, j'entre dans une phase de réveil qui n'en finit pas. Je tressaille, et c'est comme si j'avais fermé les yeux pendant 30 ans. Comme si mon cerveau se réveillait d'une longue hibernation, sortait des brumes de l'impuissance pour se retrouver là, dans la rue, avec le sentiment qu'il est encore possible d'avoir prise sur les choses. La fille cagoulée à côté de moi me regarde, l'air un peu gêné, l'air de s'excuser, comme si la foule venait de me faire un mauvais accueil.
J'imagine que j'ai les yeux écarquillés, le maquillage qui coule un peu et l'air nouille. J'ai très envie de crier à la victoire, comme si on venait de gagner le plus grand match de l'histoire du monde. Je me rends compte que c'est une victoire avec moi-même que je viens de gagner, où je renoue avec mon histoire, ma vie, ma famille, cette ville. Une victoire dont la médaille, c'est cette envie de se battre. Alors je crie très fort, avec tout le monde, je sors un de ces longs cris de rage. Après, je regarde ma voisine sceptique et je lui souris et je lui dis merci.
Deux mois plus tard, fin décembre 2037, pendant l'insurrection.
C'est agréable d'être là, les pieds au-dessus de l'eau, les grues immobiles et les épaves de cargo. Au calme, le calme au milieu de la tempête. J'en ai grandement besoin. Je regarde le port de mon enfance, quand je faisais même pas la taille d'une bille de bois couché. Là où j'ai grandi. Enfin, c'est une manière de dire, parce qu'ici, on se sent minuscule toute sa vie, au milieu de l'immensité. Je suis descendue en vélo par les petites rues pour rejoindre le quartier de la Calype et marcher jusqu'au port. Un impérieux besoin de voir la mer qui s'étend devant moi, les grands espaces. Et venir raccrocher avec le passé avant d'entrer dans le futur. C'est cette sensation qu'on vient de passer une porte, qu'on va la refermer derrière nous et qu'il faut jeter un petit regard en arrière. Bon Dieu, je vire sentimental. Un autre symptôme de ma sénilité précoce.
Bien, tout est calme, désert, alors que partout dans la ville, les manifestations s'enchaînent. Si on peut parler de manifestations. C'est fini les traditionnels défilés et leurs débordements. C'est un sacré bordel. Maintenant, il n'y a plus que les débordements. Les calmes défilés, drapeaux au vent et chansons françaises dans les sonos ont disparu. C'est désuet. D'ailleurs, le mouvement social de l'année dernière et la puissance qu'il avait pris cet automne n'existe plus. Tout ça s'est effacé, oublié. On ne parle plus de mouvements sociaux. Il n'y a plus que l'avant et l'après mardi 24 novembre, l'avant et l'après début de la Révolution.
Le 24 novembre, la police a tué 3 ados dans un lycée occupé. À la base, l'objectif de l'opération était d'arrêter les occupations des lieux publics. On ne saura jamais si ces assassinats faisaient partie de la stratégie initiale pour instaurer la peur ou si ça avait été un « dérapage » entre guillemets. Pour sûr, ils ont loupé leur coup, les bouffons au pouvoir. Au lieu de jeter un froid, l'opération avait fait totalement flamber la ville. La mort des mômes a été cachée pendant presque 3 jours. Au début, ils disaient ne rien savoir. Ils ont ensuite évoqué un suicide, puis un règlement de compte. Mais il y avait trop de témoins, et très vite, la nouvelle a tourné. Le soir même, c'était l'embrasement. Des milliers de personnes sont allées dans la rue. Parents, syndicalistes, lycéens. Le lendemain, ça a pris dans toutes les grandes villes de la Franco. Au bout de 3 jours d'émeute, le gouvernement a cru calmer les foules en avouant les assassinats policiers et en mettant en prison un des flics de l'assaut meurtrier, tout en défendant le flic en question avec des histoires de légitime défense, bien sûr. Mais le fait que les politicards assument ce geste avait fini d'ancrer la colère. À présent, l'objectif n'était plus seulement la démission du gouvernement ou du président, mais le renversement du régime. Alors, forcément, il faut se donner les moyens.
Tout le quartier de Beaulieu est occupé, ou libéré comme on dit, avec des barricades surveillées 24h/24 tout autour. La police n'y rentre pas, mais elle surveille tout autour. Voilà la gueule du quartier libéré. On peut même pas en sortir quand on veut avec les keufs qui tournent. À chaque fois que des hélicos se sont aventurés à survoler le quartier, des fusées de détresse ont été tirées dans leur direction et ils ont dû rebrousser chemin. Après avoir tiré une bonne quantité de lacrymo depuis le ciel. Ça serait dommage de venir sans laisser un petit cadeau. Pour se protéger des drones, des génies révolutionnaires ont fabriqué des flashs électromagnétiques qui les bousillent. On les flash avec une sorte d'appareil photo et ils tombent comme des mouches grillées.
un des trucs hyper importants, c'est la communication. Alors, la radio, qui diffusait avant depuis le lycée principal, est à présent au milieu de Beaulieu et diffuse des infos sur les luttes, sur la répression, mais surtout annonce où se trouvent les flics, où sont les assauts militaires, etc. Ça ferait plus professionnel avec une télé pirate, sauf que c'est difficile d'emmener une télé en manif. Alors on se trimballe avec des petites radios. Pour passer les infos, il y a des émetteurs basse fréquence, parce que parfois, lors des assauts, il y a des brouilleurs d'ondes numériques dirigés vers nous et on peut plus communiquer par téléphone.
Et puis les téléphones, c'est toute une histoire. À cause des écoutes, ils ont préconisé d'installer des logiciels crypteurs pour empêcher les communications d'être interceptées. C'est pas sûr à 100%, mais bon, moi j'y comprends rien. Je peux bougonner ça tranquillement, personne n'insiste, parce que je suis vieille. Faut savoir en profiter.
La plupart des lieux de travail restent vides. Quelques usines sont réquisitionnées et autogérées. Autour se mènent de longs combats de rue contre leur récupération par l'État. Les administrations ne fonctionnent plus vraiment, à part les commissariats, les prisons et les hôpitaux.
Les hôpitaux, c'est ça le problème majeur actuellement. Quand des personnes sont gravement blessées lors de combats, il faut les amener à l'hôpital. Mais là, il y a les flics et les gens sont soignés, mais après ils se font embarquer. C'est impossible que tout le monde tienne dans les prisons. On ne sait pas où sont emmenés les gens, et des tonnes de rumeurs tournent là-bas là-dessus. Gymnase, camp dans la forêt, île prison. Plutôt, les personnes relâchées parlent des écoles réquisitionnées, des sous-sols de commissariat. Mais ils parlent aussi des violences et des tortures. Pour le moment, ça ne fait qu'amplifier la colère. Tout comme le fait que 19 autres personnes ont été tuées lors d'affrontements ou de courses-poursuites avec la police. 19 au minimum, parce que c'est dur d'avoir les infos de toute la Franco.
On sent que depuis un mois, le gouvernement tâtonne. État d'urgence, forte répression, le pouvoir essaye de contenir la révolution. Il aurait largement les moyens militaires et technologiques de l'écraser une bonne fois pour toutes, mais ne les utilise pas. On est à quelques jours de Noël, et... moi-même, je m'étonne que la révolution continue. D'expérience, les mouvements sociaux et les conflits se tassent fin décembre pour laisser place aux festivités dans une ambiance bon enfant et consensuelle. La trêve, quoi. Peut-être que là-haut, ils comptaient sur les fêtes pour que tout revienne au calme. C'est pas le Père Noël qui va nous calmer, hein. La tradition veut qu'on lance des feux d'artifice. Pas de problème. Elle dit pas sur qui on doit les lancer.
Cette timidité toute relative du gouvernement nous donne espoir qu'il lâche à un moment et qu'on gagne. On commence sérieusement à en parler. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on va s'organiser? Il y a tellement de gens différents là-dedans. Ce sont de longs débats partout, lors des assemblées de quartier, lors des assemblées générales, sur les radios ou sur les barricades. Certains voudraient seulement un nouveau gouvernement, un gouvernement révolutionnaire. D'autres parlent d'assemblée constituante pour refaire la Constitution et proclamer la 7e République. Certains parlent de la fin de la Franco, pour une organisation en micro-territoire, une fédération de démocratie locale. Moi, je n'en sais rien. En un mois et demi, ma vie est bousculée, basculée. La seule chose inchangée, ce sont mes rages de dents. Sauf que maintenant, il y a un cabinet de dentiste où il y a moyen de se faire soigner gratuitement. Bon, le problème, c'est qu'il faut attendre un mois pour pouvoir avoir un rendez-vous.
Je n'ai pas travaillé depuis un mois. Ray non plus. Lui aussi est sorti de sa torpeur. On ne rentre plus souvent chez nous. Alors, pour me reposer, j'ai décidé de venir ici, sur le port. Je viens raconter aux fantômes familiaux et leurs collègues syndicalistes que peut-être bien que leurs rêves se réalisent. C'est bizarre que la révolution ne soit pas venue prendre ses quartiers généraux ici, alors que l'histoire de ce lieu est tellement chargée de luttes, je m'en rappelle, et aussi de celles et ceux qui les menaient. Des luttes de survie quotidiennes et des luttes syndicales. Je me rappelle du port quand il était vivant.
Mes souvenirs se mêlent aux récits de mes parents et de mes oncles. Des portiques et des cavaliers, des palans, des conteneurs et des mouettes qui font partie de la famille. Je me plonge dans l'architecture des souvenirs, le port.
La base sous-marine est indestructible. Même après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient essayé de la détruire, mais on ne peut pas. Après les 17 bombardements, il y avait eu juste un petit coin de tombée. Des dizaines de films ont été tournés là-bas. C'est un bâtiment fou, des blocs de béton rivés aux rochers qui tiennent le coup depuis un siècle, à peine émiettés, l'air buté. Ici, la guerre avait duré plus longtemps. Toute la campagne autour était déjà « libérée » entre guillemets, quand la ville, comme une poche, était restée occupée par les forces allemandes longtemps après la libération. Ma grand-mère parlait des militaires et de SS qui surveillaient les bâtiments officiels et le port. Le phare avait été réquisitionné pour surveiller la mer.
C'était un des plus grands ports de commerce du pays. La bourgeoisie s'était bien remplie les poches. Cela dit, ça avait toujours été une ville de commerce et une ville fortifiée. Elle avait été assiégée au Moyen-Âge ou à la Renaissance, je ne sais plus, parce que c'était une ville protestante ou catholique, enfin, pendant la guerre des religions, je crois.
Maintenant, on peut se balader partout, mais quand j'étais petite et que les gens bossaient, ils fermaient tous les accès. Encore avant, c'était autrement. Dans les années 60, ma mère allait voir le déchargement des grumes et des conteneurs avec son père. Elle me racontait comment des gens prenaient le mol d'escale en voiture et tombaient dans l'eau au bout. Parce qu'ils confondaient avec le pont de la presqu'île d'Orson, juste à côté. Ou parce que leur frein à main ne marchait pas. Ou, ce qu'elle me disait pas, parce qu'ils voulaient mourir. Quand elle me racontait ça, le port était déjà en perte de vitesse. Il venait de fermer toute la partie chantier et la zone marchande diminuait à vitesse grand V. Au début des années 2000, j'avais une vingtaine d'années. On faisait toutes les manifs. On passait sur les piquets, voir les dockers en grève. Puis, ma mère m'emmenait dans le quartier de la Calipe. On se calait dans un bistrot à deux pas des quais, avec leurs cris, l'odeur de pneus et de palettes cramées en arrière-fond.
Et je buvais ces récits en sirotant mon petit blanc. C'était quelque chose, ce quartier. Et avec l'insurrection de ces derniers temps, j'ai revu pas mal de têtes connues, des enfants et des petits-enfants de dockers.